y a des décisions qui vont dans le bon sens, mais comme climatologue, je vois l'urgence qui n'est pas prise en compte. Et en particulier dans ces décisions, on n'a toujours pas la conscience du fait qu'on doit vraiment au plus vite cesser d'extraire du pétrole et du charbon.
D'après vous, pourquoi cette urgence, elle n'est pas prise en compte? Il y a un message qui ne passe pas quelque part?
Non, je ne crois pas que ce soit une question de conscience. Vous savez, lorsqu'on avait le problème de la couche d'ozone, on n'arrivait pas à aller de l'avant jusqu'au jour où brusquement la chimie a trouvé un produit de substitution pour les CFC qui détruisaient la couche d'ozone. Et dès ce jour, il y avait un autre produit à vendre par les mêmes acteurs. Donc, on a pu décider de cesser complètement la production de CFC. Pour le pétrole et le charbon, toutes nos sociétés sont engagées de manière tellement, tellement forte. Il y a tellement de gens qui dépendent du pétrole et du charbon et du gaz, et aussi des sommes en jeu qui sont absolument faramineuses. Donc c'est extrêmement difficile. Il y a rien qui va pouvoir remplacer, et surtout c'est pas les mêmes personnes qui vont pouvoir gagner de l'argent que celles qui en perdraient si on renonçait au pétrole et au charbon.
J'allais venir à la question financière. Les finances, l'argent, c'est la pierre d'achoppement dans ce dossier.
Oui, dans la mesure où effectivement on a des gens qui peuvent gagner tellement, tellement d'argent avec pétrole, charbon et gaz que c'est difficile. Les États n'ont pas les moyens de faire le poids face à ces acteurs-là qui, en plus, sont très bien insérés dans les gouvernements et dans les législatifs.
On a parlé de deux décisions qui ont été prises ces derniers jours, en particulier la diminution du méthane, puissant gaz à effet de serre, diminution aussi de la déforestation, le tout à l'horizon 2030. Comment est-ce qu'on peut qualifier ces deux mesures? Est-ce qu'on peut parler là d'un impact fort sur la baisse du réchauffement climatique?
Écoutez, par rapport aux énergies fossiles, c'est des secteurs qui comptent, mais qui sont mineurs. Et surtout, la déforestation, on a vu combien c'est des décisions qui peuvent être risquées. Certains pays protègent leurs forêts jusqu'à un certain point ou n'y parviennent pas malgré les bonnes intentions, ou le font pendant quelques années puis ensuite disent ben là on n'a juste plus les moyens de les protéger, sans compter qu'il peut y avoir, et en particulier avec le changement climatique, des incendies non contrôlés qui ravagent les efforts. Donc oui, il faut aller dans ce sens, mais encore une fois, l'effet majeur, il est sur les énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz.
Martine Rebeté, ce qui a créé du remous en début de COP26, c'est l'absence de la Chine, donc le plus gros pollueur du monde. Comment est-ce que vous avez réagi vous-même?
Écoutez, ce qui est gênant, c'est pas forcément l'absence en soi, c'est que c'est un processus. La Chine a à l'évidence autre chose à faire que de s'occuper de prendre des engagements pour réduire ses gaz à effet de serre. Lorsqu'elle dit que ces émissions atteindront un pic en 2030 et puis zéro en 2060, pour moi, c'est une façon de dire, enfin, de gagner du temps. Et de dire en fait on ne fait rien, puisque ça veut dire que la seule garantie c'est qu'on va encore augmenter jusqu'en 2030, et ça c'est pas tenable, puisque aujourd'hui il faut réduire et réduire en quelques années. Donc l'objectif 1,5 degré, on est en train de le manquer, et même le 2 degrés qui est vraiment le dernier avant que les choses s'emballent, il se rapproche dangereusement. Donc on ne peut pas avoir des objectifs qui soient inexistants pour de tels montants.
Une dernière question rapidement, Martine Rebeté. Vous l'avez dit, pour l'instant, les décisions prises et la réunion COP26 vous laissent une impression mitigée. Quelles attentes concrètes est-ce que vous avez d'ici la fin de la semaine prochaine et la fin de cette COP26?
Vous savez, mes attentes, elles sont surtout dans le concret de l'action pour la transition énergétique. Elles sont pas tellement dans les belles paroles et les engagements, parce qu'on a vu que ça s'est fait auparavant. La Suisse en particulier a pris toutes sortes d'engagements qu'elle n'a jamais tenus. La Suisse n'a pas réduit ses émissions. Alors comment est-ce qu'on peut attendre que les autres le fassent? J'ai les plus grands doutes par rapport à ces engagements-là.